Alors, camarades et amis, évidemment que je commence au nom des camarades, de tous les camarades de lutte ouvrière, par vous souhaiter la bienvenue à la fête. Alors, jeudi dernier, on a eu un bon sondage d'opinion de ce que pense une frange importante du monde du travail, de la politique de Macron et de son gouvernement. Des centaines de milliers de travailleurs sont descendus dans la rue pour dire leur colère et relever la tête. Eh bien, ça fait du bien au moral de se retrouver si nombreux. C'était aussi la première étape de la mobilisation des cheminots. Présents massivement, ils ont montré qu'ils refusent une réforme par laquelle Macron veut achever l'ouverture à la concurrence initiée par ses prédécesseurs, c'est-à-dire livrer aux capitalistes les parties les plus rentables du chemin de fer, ce qui nécessite de se débarrasser des quelques garanties collectives que contient le statut des cheminots. Macron le fait brutalement et avec ses lieutenants, martèle à qui veut l'entendre que le problème de la SNCF serait que les cheminots ont des privilèges aujourd'hui indécents en comparaison avec le reste du monde du travail. Mais quel privilège il y a à passer toute sa vie à travailler en 3-8, les dimanches, les fériés? En quoi donner moins de temps de repos, augmenter l'amplitude de la journée de travail, ne plus avoir la sécurité de l'emploi, va fournir les pièces détachées qui manquent aux ateliers pour réparer les trains? En quoi ça va régler le problème des axes totalement saturés et des lignes laissées en friche? L'indécence, aujourd'hui, c'est de donner 3 milliards aux plus riches par la suppression de l'ISF quand des millions de travailleurs sont sans emploi, quand des millions de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette réforme fait partie du plan anti-ouvrier du gouvernement et du patronat. En déclarant la guerre aux cheminots, Macron s'attaque à tous les travailleurs. Il veut pouvoir dire « J'ai fait plier les cheminots, rien ne m'arrêtera ». C'est pour cela qu'il s'en prend délibérément à une frange des travailleurs qui ont gardé des traditions, qui se sont défendus à plusieurs reprises contre les réformes, en 1995 en faisant reculer Juppé, en 2014 contre la réforme ferroviaire et encore en 2016 contre la déréglementation du travail, déjà une attaque contre le statut. Tous les travailleurs doivent être de leur côté, car si leur lutte fait reculer le gouvernement, non seulement cela fera du bien au moral, mais ce sera la démonstration que l'on peut avoir confiance dans la force collective. Cela donnera forcément des idées à d'autres, contre le gouvernement ou contre le patronat. Alors, sentons-nous tous des cheminots. Affirmons autour de nous que leur lutte est aussi la nôtre. Faisons bloc derrière et avec eux. Depuis qu'il est au pouvoir, Macron ne cesse de montrer à quel point c'est l'homme du grand capital, le président des riches. S'il se vante de représenter un monde nouveau, ouvert à la société civile, au final, son gouvernement détient le record de ministres millionnaires, entouré d'une ribambelle d'ex-banquiers, de chefs d'entreprise et autres arrivistes. C'est dire ce qu'on peut en attendre. Sa politique n'a rien de nouveau. Comme Hollande, Sarkozy et tous les présidents qui les ont précédés, il continue à arroser de milliards le patronat. Et pour les trouver, toujours la même vieille technique, il fait la poche aux couches populaires. C'est la baisse des APL, l'augmentation de la CSG, la suppression progressive des emplois aidés. C'est la suppression de 120 000 emplois supplémentaires dans la fonction publique, alors que l'hôpital craque, que les écoles manquent cruellement de professeurs, d'ATSEM, etc. C'est la nouvelle réforme des retraites, annoncée comme un véritable Big Bang. Et il n'est pas une semaine sans qu'un ministre ou un député ne propose une nouvelle idée. Pour le patronat, la musique n'est pas la même. Macron se montre en serviteur on ne peut plus aîné, qui déploie toute son énergie et multiplie les lois pour lui permettre de licencier plus facilement, de faire travailler plus et de baisser les salaires. Dès son arrivée au pouvoir, les ordonnances ont permis d'accélérer les attaques contre le Code du travail initiées par la loi El Khomri. Elles ont donné au patronat la possibilité de balayer la plupart des protections des travailleurs et de leur imposer de nouvelles dégradations des conditions de travail. Pour donner un exemple concret, elles ont permis à l'entreprise Coperl qui a racheté Madrange de dénoncer les anciens accords d'entreprise en janvier dernier et d'imposer aux salariés sur poste de travailler 20 minutes de plus par jour. Et il faudrait croire que des jours meilleurs vont arriver. Macron claironne partout où il va que la croissance est de retour, qu'il faut être optimiste. Péricot, ministre du Travail, osant même déclarer en février, la décrue du chômage de masse a commencé. Comment dire ça quand le pays compte plus de 6 millions de chômeurs recensés par Pôle emploi, auxquels on peut ajouter plusieurs millions de travailleurs radiés et ceux qui, découragés, ne s'y inscrivent même plus. Comment se gargariser du nombre de créations d'emplois en 2017 quand la plupart le sont à des conditions qui se dégradent, sont plus précaires, moins payées et qu'il n'y a pas une semaine sans qu'un grand groupe annonce une restructuration avec son lot de licenciements? Et que dire du projet de réforme du contrôle des chômeurs? Non seulement c'est scandaleux de chercher par tous les moyens de supprimer les allocations au moindre prétexte, mais c'est honteux de laisser croire que ce serait de la faute des chômeurs s'ils n'ont pas de travail. Si leur plein emploi, c'est multiplier les contrats, passer d'une entreprise à l'autre avec des salaires de misère, additionner les petits boulots à temps partiel, on n'en veut pas. Et si on ne sait pas s'il y a ou non une reprise de l'économie, ce qui est sûr, c'est que tout va bien pour les plus riches. Pour eux, l'argent coule à flot. Pinault, une des plus riches familles de France, aurait vu sa fortune presque doubler en un an, passant de 15,7 à 27 milliards de dollars. Globalement, en 2017, les profits du CAC 40 ont dépassé les 93 milliards d'euros. Pour mieux se rendre compte de l'énormité de cette somme, parce que ça fait beaucoup de zéros, on peut dire qu'elle représente la paye de 3 millions de travailleurs à 1500 euros net, charges comprises, pendant un an, et je ne me suis pas trompée en faisant les calculs. Et pour les travailleurs, rien ou presque. La plupart ont leur salaire bloqué depuis des années. Quand les patrons concèdent quelques euros de plus sur la feuille de paye, ils sont vite repris par les hausses de prix. Les carburants, le gaz, les assurances, tout augmente. Le SMIC, lui, n'a été augmenté que du minimum légal. Et encore, le MEDEF se plaint que c'est beaucoup trop. Et ses valets du gouvernement osent prétendre que c'est bien suffisant pour vivre. Cela montre non seulement tout leur mépris pour les classes populaires, mais surtout que, reprise économique ou pas, les attaques contre les travailleurs vont continuer. Il serait vraiment naïf de croire que les patrons, parce que leurs profits explosent, vont renoncer à ce qui est à leur origine, l'augmentation de la productivité, l'allongement du temps de travail et la baisse des salaires. Aucun patron ne renonce jamais de plein gré à ce qu'il a réussi à reprendre aux travailleurs. Au contraire, tous les jours, le MEDEF continue de dicter ses volontés au gouvernement qui s'exécute au bas de charge. Face à eux, il n'y a pas d'autre solution que de se révolter contre toutes les injustices sociales et de chercher à inverser la vapeur. Certains travailleurs autour de nous ne croient plus qu'on puisse gagner, pensent que Macron, avec sa majorité écrasante, est trop fort. Mais il en est aussi beaucoup qui ne baissent pas les bras, qui luttent quotidiennement, que ce soit de façon individuelle face à un chef ou dans des débrayages et des grèves. Ils ne gagnent pas toujours ou peu de choses, mais leur résistance est importante et renforce le camp des travailleurs. Je pense par exemple à la lutte des Opalines, où pendant 4 mois, les employés d'une maison de retraite ont tenu tête à la direction d'un groupe privé soutenu par l'Agence régionale de santé. Quelques avancées ont été obtenues, mais surtout, cette grève a eu des échos au niveau national. Les témoignages se sont alors multipliés, montrant que partout, le personnel manque, est épuisé et contraint de bâcler les soins malgré son dévouement à essayer de faire au mieux dans des conditions inacceptables. Le 15 mars dernier, les employés des EHPAD ont participé à la réussite des manifestations avec les retraités, eux aussi très nombreux pour protester contre la hausse de la CSG. Même si c'est une goutte d'eau, leur protestation a contraint le gouvernement à faire mine de faire un geste en allongeant le budget de la dépendance. Et cette semaine, le Premier ministre Edouard a déclaré vouloir corriger le dispositif de hausse de la CSG pour en exonérer 100 000 retraités de plus. Alors bien sûr, c'est encore très injuste et surtout effectif en 2019, et sans effet rétroactif, bien sûr. Alors pour vraiment gagner, pour reprendre le terrain perdu, il faudra évidemment bien plus. il ne sera pas possible de faire l'économie d'une véritable épreuve de force. Et aujourd'hui, comme hier, les travailleurs le peuvent. S'ils luttent tous ensemble, qu'ils soient du privé ou du public, précaires, chômeurs ou retraités, ils le peuvent si leur mobilisation est massive, déterminée, comme l'ont pu être celle de 68 ou de 36. Aujourd'hui, les bureaucraties syndicales tergiversent, ne se montrent pas à la hauteur, plus préoccupées de sauver leurs intérêts d'appareil que d'organiser la riposte. Mais si les travailleurs le veulent, cela ne les empêchera pas de se montrer plus combatifs qu'elles, de s'organiser en Assemblée générale pour garder la main sur leur lutte et décider eux-mêmes de leur sort. Quant aux hommes politiques, aujourd'hui, gauche et droite paraissent dans le même panier. Il y a d'un côté les Vauquiez et compagnie, qui ont bien du mal à critiquer Macron, et de l'autre, les grands partis de gauche, le PS et le PC, aussi intégrés et respectueux des lois capitalistes que la droite, bien loin de leurs lointains ancêtres qui, à l'origine du Parti socialiste et du Parti communiste, déclaraient défendre les exploités et vouloir le renversement de la bourgeoisie. L'un comme l'autre ont depuis longtemps remplacé l'internationalisme par le nationalisme. Au sein de la classe ouvrière, ils ont hissé le drapeau bleu-blanc-rouge à la place du drapeau rouge, faisant un boulevard aux idées nauséabondes du Front national. Tous ces renoncements, toutes ces trahisons, font que bien des travailleurs se retrouvent aujourd'hui totalement désorientés. Nombreux sont ceux qui se détournent totalement de la politique. Et il y a ceux qui se tournent vers une Marine Le Pen qu'ils voient anti-système, celle qu'on n'a pas essayée. À cela, il faut montrer que le Front national est un parti bourgeois comme les autres, dont les dirigeants ne rêvent que d'une chose, aller eux aussi à la mangeoire. Marine Le Pen n'est jamais dans le camp des travailleurs. On l'a encore vu cette semaine. Interrogée sur la grève des cheminots, elle a dénoncé le jusqu'au-boutisme syndical qui a fait beaucoup de mal et n'appelle évidemment pas ses militants à se joindre aux manifestations. Son fonds de commerce, le poison du racisme, n'est qu'une façon de diviser les travailleurs. Quand elle désigne les migrants comme responsables de tous les maux de la société, c'est pour mieux dédouaner les exploiteurs de leurs vraies responsabilités. Et elle est bien aidée par tous ceux qui disent qu'on ne pourrait pas accueillir tout le monde. En premier lieu, Gérard Collomb, 17 ans sénateur socialiste et aujourd'hui ministre de l'Intérieur, qui cherche à rendre la vie des migrants encore plus infernale et assume une répression de plus en plus dure envers eux et ceux qui les soutiennent. La classe ouvrière a toujours été et restera une classe internationale. Nous devons affirmer une solidarité de classe envers ces travailleurs qui fuient la guerre et la misère. À ceux qui veulent nous diviser, opposons la défense de la liberté de circulation et d'installation pour tous. Et puis il y a ceux qui cherchent encore un marchand d'illusions et se tournent vers Mélenchon. Ils peuvent se laisser bercer par ces belles paroles, aux sonorités plus radicales, mais ce ne sont que des promesses en l'air. Mélenchon ne représente en rien les intérêts des travailleurs, car son opposition aux politiques des gouvernements ne s'attaque jamais au grand capital. Jamais il ne dit qu'il faut s'en prendre à la racine du mal, c'est-à-dire détruire le capitalisme. Cela signifie que s'il était un jour de nouveau associé au pouvoir, il ferait, comme les autres, ce que la bourgeoisie lui dirait de faire. Non, il ne suffira jamais de bien voter pour améliorer le sort des classes populaires. Y croire, c'est se bercer d'illusions mortelles. D'autant que la société capitaliste, au stade de dégénérescence où elle est arrivée, dans la crise économique dans laquelle elle s'enlise, montre un monde à feu et à sang. Un monde où les peuples entiers se font massacrer, sont obligés de fuir des guerres dont l'enjeu réel est le pétrole, l'uranium ou le partage de marché que convoitent plusieurs pays impérialistes. Tant que nous n'aurons pas mis fin au capitalisme, nous ne pourrons que craindre que les images atroces des bombardements à Alep, des attentats au Yémen, à Mossoul, à Ouagadougou, préfigurent ce qui pourra peut-être se passer demain à Paris, Londres ou New York. La paix n'existera pas sur Terre tant que le capitaliste survivra. La classe ouvrière doit en avoir conscience, comme elle doit avoir conscience qu'elle est la seule force capable de contester à la bourgeoisie la direction de la société et de lui arracher le pouvoir des mains. Les travailleurs doivent s'y préparer. Face à toutes les divisions, les travailleurs conscients doivent lever le drapeau de l'internationalisme et de la lutte de classe pour défendre la perspective de reconstruire un parti ouvrier digne de ce nom, un parti communiste révolutionnaire. Ils doivent opposer à la propagande du gouvernement reprise par les médias leurs intérêts de classe. Ils doivent saisir toutes les occasions d'affirmer clairement, nettement leurs exigences, prendre sur les profits, sur les revenus des actionnaires, sur les fortunes, pour interdire les licenciements et répartir le travail entre tous, augmenter tous les salaires, les retraites, les allocations et imposer qu'ils augmentent automatiquement à chaque hausse de prix. Ils doivent imposer le lever du secret bancaire, le secret des affaires, pour soumettre les grandes entreprises au contrôle des travailleurs et leur permettre de dénoncer les scandales dont ils sont témoins, comme récemment celui de Lactalis. Chacun de nous peut apporter sa pierre, œuvrer à la construction du parti. Chacun, à son échelle, peut participer à toutes les luttes quotidiennes des travailleurs, mais aussi militer autour de lui, auprès de ses voisins, de ses amis. Nous ne savons pas l'ampleur qu'aura la protestation des cheminots ou d'autres travailleurs face aux attaques sans répit du gouvernement, mais une chose est sûre, un jour, le mécontentement finira par se transformer en explosion de colère. Un jour, la coupe sera pleine et les capitalistes, si sur dos aujourd'hui, auront peur de tout perdre. C'est parce que les travailleurs ont toujours la capacité collective de renverser la société que nous gardons la conviction que l'avenir est au communisme. La conviction que l'espoir qui s'est levé au moment de la révolution russe de 17, dont nous avons fêté le centenaire, est encore d'actualité. Oui, il est d'actualité de défendre la perspective d'une société débarrassée de la notion de profit, une société sans exploitation, où les besoins des hommes seront simplement satisfaits. Oui, il faut aujourd'hui être fier, comme hier, d'être communiste. Et le chant des communistes, c'est l'international. Alors je vous propose de la reprendre avec moi. De...